La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Et si les empires coloniaux n'avaient pas existé ?
Les Allemands se sont emparés de Kiao Chiu. Les Russes se sont emparés de Port Arthur. Les Français ont obtenu des concessions dans le Yunnan, le Guangxi et le Kwantung. Des bateaux de guerre étrangers occupent nos ports. Des armées étrangères occupent nos ports. Des financiers étrangers administrent nos banques. Des dieux étrangers troublent la paix des esprits de nos ancêtres. En tout, 13 des 18 provinces de la Chine sont sous la domination étrangère.
En 1900, les boxeurs échouent dans leur révolte contre les missions et les légations étrangères à Pékin. Les historiens ont généralement enregistré ce moment comme celui de l'abaissement maximal de la Chine. Mais d'autres font observer que cette révolte aurait pu tourner autrement, mais surtout aurait pu ne pas avoir à se produire. L'histoire est faite d'embranchements. Longtemps, la richesse de la Chine et celle des futurs pays colonisateurs étaient comparables. Ensuite s'est creusée une grande divergence. Et si elle n'avait pas eu lieu ? À la Chine, il aurait manqué telle donnée et donc elle aurait raté l'embranchement, telle causalité entraînant nécessairement telle conséquence. Alors cette histoire linéaire, évidemment, elle est satisfaisante pour l'esprit. Et si on essayait une histoire avec des futurs non advenus, des futurs en ligne brisée ? Exemple, l'Inde et pas seulement la Chine, peut-être aurait-elle pu ne pas être dominée ? Et si les empires coloniaux n'avaient pas été constitués ou avaient été constitués par d'autres que les occidentaux ? C'est, vous allez le voir, une excitation pour l'esprit de faire l'histoire avec des si.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour à vous, Pierre Saint-Caravelou.
Bonjour.
Si vous n'étiez pas membre de l'Institut universitaire de France, nouveau professeur, jeune directeur des publications de la Sorbonne, vous aviez l'imagination pour être un romancier ?
Ah, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'imagination est une qualité sans doute indispensable à tout historien.
Ah, Alain Corbin, qui était notre invité vendredi dernier, aime à dire, il va plus loin que vous, la principale qualité de l'historien, c'est l'imagination.
Alors, c'est une qualité sans doute indispensable. C'est ce que nous avons essayé de montrer avec Quentin Deluermoz dans l'ouvrage que nous avons co-signé récemment.
Et dont vous allez dire le titre.
Pour une histoire des possibles.
Et l'éditeur. Parce que c'est pas les publications de Sorbonne, c'est
du
infiniment
Seuil. Je fais
plus puissant.
La promotion.
Les éditions du Seuil. Donc, avec votre compère Deluermoz, vous attaquez à un grand sujet. Oui. L'imagination chez l'historien.
Oui, en effet, à travers cette histoire des possibles et ces analyses contrefactuelles mobilisées par les historiens.
Contrefactuelles, ça veut dire l'histoire avec des si. L'histoire
avec
conjecturale.
Des si. Exactement. Ces approches nous invitent à sortir d'un certain nombre de fausses oppositions. Alors, on en reparlera peut-être, opposition entre contingence et déterminisme, entre approche qualitative et quantitative, et puis surtout l'opposition entre la réalité et l'imagination, l'opposition entre l'histoire et la littérature que vous évoquiez tout à l'heure. Et au fond, nous avons constaté que l'imagination n'est pas ennemie de l'histoire, puisque la connaissance historique, ça a été dit depuis longtemps par de nombreux historiens, notamment par Carlo Ginzburg, la connaissance historique, elle est indirecte, puisque nous ne vivons pas l'histoire que nous sommes censés relater. Elle est indiciaire, c'est-à-dire que c'est une connaissance par trace, donc une connaissance trouée, donc l'historien doit imaginer ces blancs de l'histoire. Et d'autre part, comme vous l'avez dit, l'histoire, elle est par définition conjecturale, c'est-à-dire que l'historien doit émettre des hypothèses.
Mais vous me direz qu'il n'y a pas besoin d'un historien et d'avoir toutes les références que vous citez, Pierre Saint-Caravelou. Il suffit d'un adolescent qui joue au jeu vidéo et qui voit qu'il y a des embranchements possibles qui lui sont permis par un jeu vidéo. Vous citez de nombreux jeux vidéo à tonalité historique tels qu'ils sont pratiqués maintenant.
Bien sûr, les jeux vidéo de plus en plus mobilisent ce raisonnement contrefactuel.
Si Napoléon n'avait pas gagné à Waterloo.
Exactement, ils
prennent. Si Hitler avait attaqué au Moyen-Orient plutôt que de continuer à attaquer en Grande-Bretagne, etc.
Bien sûr, puisque ces jeux vidéo prennent souvent pour décor l'histoire, parce que l'histoire leur confère un surcroît de réalisme, hein, donc confère à cette virtualité un surcroît de réalisme, et donc permettre de donner du dynamisme, de l'interactivité, et donc on joue en refaisant l'histoire.
Donc avec la console, on va peut-être pouvoir enrichir le tableau noir ou vert du professeur d'histoire dans sa classe, mais ça, un jour, on consacrera une émission à ce sujet. Mais je vous propose qu'on prenne quelques dossiers, le mot dossier n'est peut-être pas le mieux approprié, et qu'on joue sur certaines hypothèses à propos de trois sujets, la traite, l'Inde, puis la Chine. Alors la traite, vous avez fait une séance en 2011 à Grenoble, c'était dans le cadre du Forum de la République des idées de Pierre Rosanvallon, public cultivé, hein, c'était à la Maison de la Culture, mais les techniciens de la Maison de la Culture aussi ont participé au débat sur le thème « Si le monde n'avait pas connu la traite ». Et vous avez eu un grand succès.
Oui, alors c'est une expérience qui a été extrêmement enrichissante pour nous. Le premier constat de notre côté, nous avons été très étonnés par les réponses de l'auditoire. Très étonné par le fait que la plupart des intervenants ont retrouvé spontanément, au fond, les hypothèses qui étaient formulées depuis des décennies par les spécialistes de cette question, ce qui en dit long sur la capacité d'imagination de nos concitoyens et en même temps peut-être aussi sur la pauvreté d'imagination des historiens.
Alors on ouvre le dossier, bon, vous avez, vous, pendant cette séance de Grenoble 2011, quelqu'un qui présente l'affaire de manière très précise, nous, très modestement ici, un documentaire de Pierre Pommier, un extrait de ce documentaire qui met en scène à Bordeaux, capitale négrière avec d'autres grands ports français, un capitaine et un armateur.
Vendredi 3 avril 1789. Tous les esclaves ont été vendus à part. 3 malades atteints du scorbut.
Une bonne traversée, de bonnes affaires. Je vous félicite, capitaine. Je sais, capitaine, que la récolte de la canne à sucre a été excellente cette année.
Ne vous a-t-il pas été possible de revoir le prix de vente de mes esclaves à la hausse ?
Oh, monsieur, j'ai en tout point exécuté fidèlement vos ordres.
Ce qu'il ne dit pas, le capitaine Négrier, c'est qu'il ment. Il a prélevé les 3 meilleurs esclaves et les a vendus pour son bénéfice en les faisant passer pour malades.
Alors, dans la grande séance de Grenoble sur le thème « Et si la traite n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé ?» J'imagine que beaucoup de gens ont levé le doigt et ont demandé à dénoncer le caractère amoral de la traite, parce que l'histoire, c'est quand même une science morale, d'abord. Hein.
Alors, l'histoire peut être une science morale, et notamment à travers sa dimension contrefactuelle, puisque les participants ont mobilisé, les participants de l'expérience de Grenoble ont mobilisé cet argument contrefactuel pour poser la question morale. Et en fait, ils reproduisent par là même un raisonnement qui est utilisé depuis les années 80 par des avocats, des universitaires, des historiens, un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour au fond justifier, légitimer des campagnes de réparation des préjudices causés par la traite et l'esclavage. Et donc, notamment, ces avocats et ces historiens effectuent des calculs contrefactuels pour tout simplement établir le montant des réparations à accorder aux descendants de l'esclavage.
C'est aussi pour ça que l'histoire contrefactuelle a du succès. C'est qu'elle peut produire un argumentaire politique.
C'est ça, elle produit un argumentaire politique.
Des entrepreneurs moraux.
Exactement. Et elle permet aussi de sensibiliser l'opinion publique. Par exemple, à l'occasion de ces campagnes, eh bien, les historiens se sont adressés notamment à l'opinion publique britannique en leur demandant, mais alors si des millions de Britanniques pendant 4 siècles avaient été envoyés dans les Caraïbes, hein, comme esclaves, eh bien, où en serait la croissance économique britannique? Ça permet, en fait, d'inverser les rôles historiques et ça permet, au fond, de se mettre à la place d'eux. C'est ce que vous évoquiez sur l'imagination au début de cette émission. C'est-à-dire, au fond, de produire de l'empathie, hein, et c'est où.
Mais je ne sais pas si c'est de l'empathie qui est manifestée. Là, on voit dans votre compte-rendu, Pierre Singer-Avelou, un Grenoblois dire, mais si on avait envoyé des Irlandais.
Oui. Alors justement, ça c'est très intéressant parce que on s'était passé d'esclave, eh bien c'est une jeune fille qui précisément émet cette hypothèse. Eh bien nous aurions envoyé des Européens et alors on lui demande de préciser, puis elle dit bah sans doute des Irlandais puisqu'ils étaient méprisés au XVIIIe au XIXe siècle, considérés un peu comme les nègres entre guillemets de l'Europe. Et en réalité nous lui répondons bah que c'est méconnu en France, mais ça a été le cas. Les Irlandais ont été utilisés officiellement comme des esclaves dans les îles des Caraïbes, à la Barbade, à Montserrat, jusqu'au XVIIIe siècle, et ils valent d'ailleurs 10 fois moins cher que les bons esclaves du golfe de Guinée.
Ah, oui, mais moi je vais, et ça c'est le cas d'un certain nombre des participants de la rencontre de Grenoble, vous expliquer que l'histoire c'est pas seulement une science morale, que la cliométrie, la mesure en histoire, ça existe. L'abolition de l'esclavage, elle a été aussi portée par des libéraux qui disaient l'esclavage, ça nous coûte cher, c'est un préjudice pour nous autres, civilisation occidentale.
Bien sûr, alors c'est un débat très ancien, vous avez raison de rappeler le rôle des libéraux, Adam Smith, qui est contre l'exclusif, contre l'esclavage précisément parce qu'il considère que c'est une mauvaise affaire économique. Et ce débat s'est poursuivi tout au long ensuite du XXe siècle. Il a été marqué par des travaux comme ceux d'Eric Williams, qui est devenu ensuite Premier ministre de Trinidad et qui a publié un livre très célèbre, Capitalisme et esclavage, où il tente de démontrer que ce sont les capitaux accumulés à l'occasion de la traite et de l'esclavage qui ont permis de financer la révolution industrielle.
Alors ça, c'est la thèse. Sans le port de Liverpool, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle à Manchester. Ça peut se discuter.
Alors ça s'est discuté, ça a été discuté, vous avez raison. Et notamment, elle a été discutée par toute une série d'économistes comme Bouddha et Mad, qui ont mobiliser précisément les contrefactuels pour proposer une approche très nuancée, montrant que certes, la traite et l'esclavage ont permis à l'Europe de s'enrichir énormément, mais ces richesses ont été confisquées par certains groupes sociaux, monopolisées par certains groupes dans certains secteurs, par les armateurs, dans les chantiers navals, etc. Et donc ces capitaux n'ont pas été réinvestis dans le développement industriel. Et donc selon Bouddha et Mad, en dépit de cet enrichissement, eh bien ces capitaux de la traite n'ont pas été une condition sine qua non de la révolution industrielle.
Je note que pour faire de l'histoire avec des si, il faut produire beaucoup de références et beaucoup de noms. C'est peut-être qu'on manque de sources, on y viendra tout à l'heure. Je vous propose d'ouvrir un deuxième jeu. Enfin, les Indiens n'aimeraient pas qu'on présente le thème que je vais mettre en avant maintenant comme un jeu, parce qu'ils sont très soucieux du respect qu'on doit à leur histoire. Si l'Inde n'avait pas été colonisée, ou si les Français avaient colonisé la moitié de l'Inde, si Dupleix avait réussi depuis Pondichéry, et que les Britanniques avaient été cantonnés au nord.
Grande question contrefactuelle, qui nous permet de revisiter toute l'histoire de l'Inde. En fait, le sociologue très connu Immanuel Wallerstein y a consacré une étude qui s'intitule justement « L'Inde existe-t-elle ?». Alors il imagine, ce qu'il considère comme totalement plausible, que les Français aient réalisé leur grand rêve d'un empire des Indes dans la moitié méridionale de l'Inde, le rêve de Dupleix, et qu'entre 1750 et 1850, ils aient colonisé cette moitié sud de l'Inde. Il imagine que les Britanniques se seraient installés dans la moitié septentrionale et l'aurait dénommé l'Hindoustan, tandis que le sud aurait été nommé Dravidia. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au sud de l'Inde prévalent des cultures dravidiennes avec des langues, pour le coup des pratiques culturelles très différentes du nord de l'Inde. Et il explique que dans ce cas, eh bien à partir de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, les hommes politiques, les savants en Inde mais aussi dans le monde entier se seraient appliqués à démontrer l'ancienneté de ces deux entités politiques, de ces deux civilisations,
l'Hindoustan au sud,
Dravidia au sud. Et dans ce cas-là, eh bien, l'Inde n'aurait pas existé.
C'est-à-dire que les historiens seraient venus au secours de la victoire française ou de la domination anglaise.
Exactement. Il nous démontre par là même quelque chose de très important, c'est que contrairement aux apparences, c'est souvent le présent qui détermine le passé. Et donc que l'Inde est une invention récente qui est due à la contingence, c'est-à-dire à la colonisation britannique très récente.
Mais les Indiens aiment beaucoup l'histoire contrefactuelle, l'histoire avec des si, et ils insistent plutôt sur le fait que si aucune décolonisation n'avait eu lieu, la puissance indienne se serait mieux développée.
Oui, exactement. Alors, ils ont envisagé tout un tas d'expériences possibles, y compris, alors moi je pense tout de suite à une histoire alternative qui est celle de Parashuram, qui aurait colonisé l'Inde, aurait, l'Empire Bengali aurait colonisé jusqu'à l'Europe, hein, le monde entier. Ah. Et donc ces Indiens se sont beaucoup intéressés au modèle impérial indien à l'époque de notre Moyen-Âge européen, ce qu'ils appellent la Greater India, la plus grande Inde, une Inde pacifique, qui aurait civilisé toute l'Asie, contrairement au modèle impérial britannique très agressif et violent.
Ben regardez, en 1954, les comptoirs de l'Inde, sauf votre honneur, Pierre Saint-Garavelou, font figure d'établissement un peu ruiné face à la nouvelle puissance indienne. Il ne nous restait que ces confettis de l'Empire dans ce domaine. Et Béar en a fait un blason féminin. C'est Julienne Gréco ici qui interprète cette chanson de 58, 4 ans après la cession des comptoirs français de l'Inde.
Elle avait un chandernagore de classe. Elle avait un chandernagore rablé. Pour lui seul, elle découvrait ses cachemires, ses jardins, ses beaux quartiers, enfin son chandernagore. Pas question, dans ces conditions, d'abandonner les comptoirs de l'Inde. Elle avait de Yanaon, de Cocagne, elle avait de Yanaon ronds et frais, et lui seul s'aventurait dans sa brousse, ses vallées, ses collines de Yanaon. Pas question, dans ces conditions, d'abandonner les comptoirs de l'Inde. Elle avait le Pondichéry facile. Elle avait Pondichéry accueillant. Aussitôt, c'est un nouveau touriste qu'elle fit voir son comptoir, sa flore, sa géographie. Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ah, si l'Empire français avait été plus grand. Nostalgie. Ah, si les empires coloniaux n'avaient pas existé. Question vibrante dans beaucoup de parties du monde. Nous sommes en compagnie de Pierre Saint-Garavelou qui publie avec Quentin Deluermoz aux éditions du Seuil un livre sur l'histoire des possibles, l'histoire avec des si. Alors, j'insiste sur ce que j'avais déjà indiqué il y a un instant. C'est bien votre histoire avec des si, c'est flatteur pour l'esprit. C'est commode parce que il y a pas de source à mobiliser, ou si peu, sauf quand on fait des reconstitutions cliométriques, des reconstitutions économiques.
Alors, c'est une vraie question et c'est une faiblesse de nombreux essais d'histoire contrefactuelle. C'est pourquoi avec Quentin Deluermoz, nous avons essayé d'éprouver sur pièce cette histoire contrefactuelle et des futurs possibles en travaillant sur archives.
Ça arrive parfois.
Et c'est la condition d'une bonne histoire contrefactuelle, si je puis dire.
Il y a quelques exemples.
Alors nous avons
bien
développé tous les deux plusieurs études de cas, et notamment concernant le sujet d'aujourd'hui, l'histoire de la guerre des boxeurs en Chine, en 1900. C'est-à-dire au moment
les
où...
Les boxeurs, c'est ce qui est expliqué dans les 55 jours de Pékin. Une méchante secte vient assiéger les légations et les missions étrangères qui résistent invinciblement.
Alors les boxeurs, c'est autre chose. Ce sont des artisans, des paysans chinois du nord-est de la Chine et qui se révoltent contre la présence étrangère et le développement du christianisme dans cette région de la Chine. Alors, le monde entier se ligue contre ces rebelles, hein, les 8 grandes puissances, Japon, France, Russie, États-Unis, etc., pour mater cette rébellion. Et donc, l'histoire officielle de cette guerre des boxeurs nous relate comment les Occidentaux alliés aux Japonais auraient aisément réprimé ces bandes de barbares chinois. En réalité, lorsqu'on s'intéresse aux archives, l'histoire est bien différente. L'histoire est bien différente parce que les Européens ont failli perdre à plusieurs reprises cette guerre des boxeurs, et c'est très présent dans les sources, puisque les contemporains eux-mêmes, les Européens, dans les légations, en dehors des légations, mobilisent en permanence un raisonnement contrefactuel. Et si les Chinois remportaient cette bataille, ils anticipent même la victoire des Chinois, puisque dans les concessions à Tianjin, eh bien, ils préparent des plans pour massacrer leurs femmes et leurs enfants pour pas qu'ils ne tombent aux mains des Chinois. Et donc, si vous voulez, à travers les archives, on peut prendre en considération les futurs espérés, les futurs craints par ces acteurs. D'autre part, donc, cette approche contrefactuelle nous permet de prendre en considération les capacités d'action des Chinois. On se rend compte, en fait, que si les alliés ont pu remporter cette guerre des boxeurs, c'est parce qu'en fait, les régiments militaires chinois les plus modernes n'ont pas combattu parce que ces régiments dirigés par les vice-rois du sud et du centre de la Chine ont signé des traités de paix séparés avec les alliés et donc n'ont pas déclaré la guerre. Et le dernier élément qui est très important pour nous dans ces archives, eh bien, ce sont les sources produites par les Chinois eux-mêmes, qui sont, par exemple, les placards, les gravures qui sont clouées sur les murs des villes au lendemain de la guerre des boxeurs et qui racontent, en fait, des victoires imaginaires des Chinois sur les Occidentaux. Des victoires contrefactuelles. Et donc ça, c'est très important parce que ça nous permet, ça oblige les historiens à revisiter les catégories traditionnelles de l'entendement historique qui ont tendance en Europe à départager très clairement d'un côté les vainqueurs des vaincus, alors qu'en réalité, la plupart des Chinois au lendemain de la guerre, et ça c'est vraiment, on ne peut le percevoir qu'à travers les archives, ne se vivent pas comme vaincus. Et considèrent qu'ils ont remporté cette guerre. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la culture confucéenne, ce qui est important, c'est pas de remporter une petite bataille sur le champ de bataille précisément, mais plutôt de restaurer l'ordre.
Alors, je continue mes objections, si vous le voulez bien, Pierre Singara-Velou. Vous avez répondu à la question des sources avec cet exemple bien documenté. En France, on est le pays qui aimons le moins cette histoire des possibles. Les Anglais s'amusent avec cela depuis très longtemps, les Indiens, on l'a dit, sont passionnés, les Latino-Américains, les Africains, mais en France, vous comprenez, on a un récit, nous autres, avec un début et une fin, et c'est d'ailleurs la fin qui organise le début. Nous sommes une république, c'est pour ça que nous avons absorbé la monarchie, et nous avons été un empire. Le récit colonial s'insérait parfaitement dans le récit national.
À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Bon, ça c'est la pensée brute de décoffrage au sommet de l'idée coloniale qui se situe dans les années 30. Vous avez souvent montré l'importance des manuels scolaires, l'importance de ce qui se passait dans les universités, dans les écoles coloniales, la science coloniale qui se constituait. Mais même à ce moment-là où on explique que la crise démographique peut être dissimulée par l'Empire, que la crise économique peut être absorbée par l'Empire, il y a des gens intelligents, Pierre Singara-Velou, qui se disent il y a plusieurs possibles pour cet empire. Il en est même qui disent il faudrait développer le marché intérieur des colonies, déplacer les centres de production, industrialiser l'empire pour lui-même. Oui. Et ça permettrait toutes sortes de solutions
qui se font jour d'ailleurs dans les esprits dans les années 1945-1955.
Exactement. L'historien peut et doit sans doute envisager les possibilités de l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça permet au fond de restituer les incertitudes des processus sociaux et politiques, en l'occurrence de ces années 30, 1930-1960, les chemins qui n'ont pas été pris, les cul-de-sac de certains processus historiques. Et alors, concernant cette période des années 1930-1960, un historien comme Fred Cooper montre comment, pendant près de 20 ans, eh bien, les colonisateurs comme les colonisés eux-mêmes explorent d'autres options que la décolonisation. Des options qui ont été oubliées depuis, mais qui ont grandement influencé les acteurs eux-mêmes. Par exemple, les syndicalistes autochtones en Afrique occidentale française, au Sénégal par exemple, après 1945, tentent d'exploiter les potentialités du système colonial, notamment pour acquérir de nouveaux droits sociaux. De même, les historiens ont eu tendance à sous-estimer l'importance de formes politiques possibles entre 1945 et 1960, des formes politiques comme par exemple le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une option qui est non seulement promue par les colonisateurs, les Français, les Britanniques, les Néerlandais, en Asie du Sud-Est, en Afrique, mais c'est aussi une option qui est défendue par les dirigeants des pays africains et asiatiques, comme Senghor, comme Ho Chi Minh, hein, qui tente d'appuyer sa vision panasiatique sur un nouveau fédéralisme qui réserve une place à l'ancienne puissance coloniale.
Qui serait une sorte de centre de gravité économique, les puissances colonisées s'organisant par en bas. C'est pas comme ça que les choses vont finir par se passer. On citait la cession des comptoirs français de l'Inde, 1954, sous le gouvernement Madès-France. Les accords de Genève, la perte de l'Indochine, 1954, et deux ans après, c'était une conséquence qui était inscrite dans le texte, les adieux à ses auditeurs de Radio France-Asie. Donc nous sommes en 1956.
Je voudrais que tous ensemble, nous ici et vous qui nous écoutez, soit à Saïgon, soit à l'intérieur du pays, perdu dans les rizières, la brousse ou la montagne, soit à Hong Kong, à Singapour, au Japon, dans cet immense Extrême-Orient et partout ailleurs, vous vous joignez à nous pour un dernier chant des adieux.
Et sans espoir de retour, faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour?
Ce n'est qu'à nos revoirs, mes frères, ce n'est qu'à nos revoirs. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'à nos revoirs.
Veuillez écouter à présent le message de Son Excellence l'ambassadeur de France, Monsieur Henri Oppenau.
C'était la voix désintéressée de la France. Amis de Radio France Asie, votre station cesse ce soir ses émissions. Les paroles d'adieu que je vous adresse en son nom seront les dernières que vous entendrez sur ces ondes. Une grande voix française s'éteint, mais l'écho dans vos cœurs n'en périra pas. Et vous savez tous, n'est-ce pas, que la voix de la France ne se taira jamais.
Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la dernière des émissions de Radio France Asie. Nous vous souhaitons une bonne nuit et nous vous disons au revoir.
Une archive restaurée sur la recommandation de Patrick Cohen pour nous.
Oui, c'est une archive sonore fantastique parce qu'elle illustre parfaitement la mondialisation impériale. C'est Radio France Asie qui émet depuis Saïgon entre 50 et 56 dans quasiment toute l'Asie, jusqu'en Inde, au Japon, dans plusieurs langues, le vietnamien, le mandarin, le cantonais, l'anglais, et en même temps, ce document qui s'achève avec la chanson « Ce n'est qu'un au revoir », qui est une chanson, me semble-t-il, d'origine écossaise, mais qui est une chanson qui est très populaire dans toute l'Asie. Au Japon, à cette époque, les enfants connaissent la chanson, à Taïwan, et puis c'est quand même l'air qui a inspiré l'hymne coréen avant 1910.
Mais disait Pierre Madès-France, s'il faut choisir entre le développement économique et l'Indochine, je choisis le développement économique. Et s'il faut choisir, disait Charles de Gaulle, entre la décolonisation et notre intérêt, je choisis notre intérêt. Et par conséquent, la décolonisation. C'est drôle parce que l'histoire avec des si, ça peut être utilisé par les tiers-mondistes. ça peut être utilisé par les réformistes, ça peut être utilisé par des tempéraments pragmatiques, voire conservateurs, comme celui du général de Gaulle.
Exactement. L'histoire contrefactuelle, l'histoire des possibles, c'est une histoire qui est profondément, qui est par définition indéterminée d'un point de vue politique. Puisque l'histoire est la science du changement, eh bien, ce changement, on peut l'interpréter de diverses manières.
Et puis ça peut être une leçon aussi pour nous-mêmes, parce qu'au fond, l'utilité de l'histoire, c'est la thérapie personnelle. Et ça peut nous enseigner des choses sur les embranchements et les bifurcations que nous avons à connaître.
Bien sûr, d'un point de vue personnel, vous entendez ?
Oui.
Oui, oui, puisque
si je faisais cela,
contrefactuel est omniprésent dans notre vie quotidienne. Il est à l'origine du sentiment de regret, du sentiment de nostalgie, et nous effectuons chaque jour un nombre incalculable d'opérations contrefactuelles pour prendre des décisions, par exemple.
Merci à vous, avec Quentin Deluermoz, votre livre Pierre Saint-Garavelou, pour une histoire des possibles aux éditions du Seuil. Au programme de Mathieu Vidard.
Oui, Jean, dans la tête au carré, dans un instant, on va s'intéresser à ce virus Zika.
Et au générique de la marche de l'histoire, Guillaume Roux à la technique, Jacques Sigal à la réalisation. Il est 14h, vous écoutez France Inter.